Salut, bienvenue dans cette interview. Je suis Lucien Roy, spécialiste de l'accomplissement quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Yves Ponce, qui est auteur, expert de la mémoire, mais aussi de l'efficacité, même s'il ne se définit pas comme ça. Salut Jean-Yves.
Salut, salut Lucien, ça va? Salut tout le monde.
Et bah du coup, pour commencer, comme toujours, pourquoi est-ce que j'ai invité Jean-Yves? Donc, le premier truc, c'est que c'est une des personnes qui m'a beaucoup aidé à réussir à faire le blog et en même temps mes études, que j'ai d'ailleurs très bien réussi. Tu vois, l'année dernière, j'étais major ou deuxième de promo. J'ai pas eu le classement officiel, mais c'était comme ça. Et du coup, bah, toutes ces techniques de mémorisation qui m'ont permis de combiner tout ça, d'aller très vite. Et moi, je suis assez partisan du moindre effort avec le maximum d'effets. Et ça marche très bien. C'est parfait pour ça. Ensuite, le deuxième truc... qui est très marquant chez Jean-Yves, c'est qu'il incarne. Il incarne ses concepts. C'est le truc, tu le vois, il incarne directement dans ses vidéos. Tu te rends compte immédiatement que le mec n'a pas lu un livre et qu'il te le rebalance dans la tronche parce que il découvre des trucs comme ça. Ou par exemple, à un moment dans une vidéo, il nous dit « Bon, alors, j'essaie de me concentrer pour lire parce qu'il fait plein de défis aussi, on aura l'occasion d'en parler. » Et je me suis rendu compte que lire en marchant, c'était une bonne idée. Et ça, si tu ne vis pas dans tes concepts, si tu ne vis pas en permanence dans tes expériences, tu ne peux pas te rendre compte de ce genre de truc-là. Et donc ça, c'est fascinant et c'est génial. Et le dernier truc, c'est, on en discutait juste avant l'interview, c'est l'art de la démonstration. Parce que ça, voilà, quand tu peux mémoriser 1000 décimales de pi, des empreintes digitales à la télé, le plan entier du métro parisien, ça fait quand même des preuves qui sont importantes et qui permettent aux gens de se dire « Waouh, il y a un truc à creuser, il faut absolument que j'aille plus loin. » Et donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et avec un angle particulier qui est la place du plaisir et du fun dans ta vie?
Ah, bah moi, de toute façon, je fonctionne qu'au fun. Je m'appelle Jean-Yves Ponce, j'ai maintenant 40 ans et je suis spécialiste de la mémorisation. Ça veut juste dire que j'aide les gens à avoir une bonne mémoire. J'aide les gens à réussir leurs examens quand c'est des étudiants. J'aide les gens à apprendre des langues étrangères quand, par exemple, c'est des cadres qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre les langues à leur école. Donc, j'aide à faire ça. J'aide les dirigeants qui sont trop pressés et trop occupés pour pouvoir apprendre des nouvelles choses. Donc, je les aide à apprendre très rapidement. Et voilà, donc je suis spécialiste de la mémorisation. J'aide également les acteurs et les actrices à apprendre leurs textes plus rapidement. Donc, tout ce qui a un côté concentration et mémoire, ben, j'interviens, je suis là. Parce que la concentration et la mémoire, ça va ensemble. Et ça fait maintenant depuis... On est en 2019, ça fait 8 ans que je fais ça. Donc, je suis un peu un dinosaure. Au niveau du web, ça commence à faire un peu dinosaure. Hein.
C'est comme Mathieu Bénis de la semaine dernière. C'est les deux dinosaures du web, l'un après l'autre.
Bah, Mathieu, on a commencé à peu près en même temps, en plus. Donc, ouais. Ça tombe bien que tu m'en parles. Et ouais, donc voilà. Je suis... connu entre guillemets pour avoir une chaîne YouTube Potion de vie sur laquelle j'ai partagé des défis de mémorisation. Retour en arrière, on est en 2011. En 2011, les techniques de mémorisation, pas grand monde ou presque sait ce que c'est, pour ainsi dire personne. Et moi, je me dis, mais c'est quand même super fort parce que moi, j'ai découvert les techniques de mémorisation. J'arrive à mémoriser des jeux de cartes, j'arrive à mémoriser des décimales de pi, j'arrive à faire des trucs assez dingues finalement avec la mémoire tout en utilisant des techniques très simples. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mémorisé des trucs assez ouf avec des techniques très simples. Je l'ai montré sur YouTube. Ça a plu aux gens. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai voulu avoir un angle un peu plus utile. C'est-à-dire être utile aux gens. Donc, comment vous mémorisez tel cours avec telle technique? Comment on fait pour... Je faisais plein de tutoriels, en fait. Plein de défis, plein de tutoriels. Des défis pour montrer un petit peu ce que je savais faire et des tutoriels pour un peu être utile aux gens. Donc, voilà, c'est ce que je faisais depuis 2011-2019. Et là, c'est vrai que depuis un an et demi, la chaîne commence vraiment à décoller. Le bouche à oreille a fonctionné. Parallèlement, j'ai sorti plusieurs livres qui se vendent très, très bien. Donc, ça s'appelle « Une mémoire extraordinaire » aux éditions Marabout. Et également, « Booster votre mémoire »,« Concentration ». Enfin, bref, tout ce qui tourne autour de la mémoire et de la concentration, je suis là. Donc, voilà pour ma petite présentation. Comme tu l'as dit, ben, le fun, ça a une place hyper importante dans ma vie parce que, tout simplement, si ça ne m'amuse pas, je ne le fais pas beaucoup. Donc, par contre, j'ai de la chance de trouver du plaisir dans énormément de choses, même les plus sérieuses. Donc, ouf.
Et bah justement, tu veux nous parler, là, c'est le dernier livre que tu as sorti et qui va d'ailleurs ressortir à l'avenir, c'est « Concentration ». Donc, c'est une méthode où tu expliques comment tu te concentres et Et justement, bah, comment s'en servir de manière utile? Parce que c'est vrai que retenir des décimales de pi, c'est bien, mais les gens vont dire, bon, ok, c'est beau spectacle, maintenant, on en fait quoi?
Aucune utilité dans la vie, hein. De retenir les
Est-ce
mille
que ça t'a
décimales de
déjà
pi.
servi un jour pour
Ouais.
créer des codes PIN, peut-être?
Non, en fait, tu as des techniques pour mémoriser les chiffres, mais en fait, pi, moi, ça m'a servi au niveau de la confiance.
Ouais.
C'est-à-dire, quand tu es capable de faire ça, tu as un énorme boost de confiance, et du coup, tu te dis, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mémoriser d'utile? Et mon livre Concentre Action, lui, il est plus basé sur l'action et l'efficacité parce que, comme tu le sais peut-être, on est dans un monde hyper connecté.
Ah bon?
Et un monde hyper et le monde hyper connecté, il n'y a pas pire en fait pour te divertir et pour choper ton attention, alors que normalement tu devrais être en train de faire autre chose. Et les gens n'ont pas été formés à résister à ces pulsions de distraction. Donc du coup, la moindre notification, la moindre chose qui va un petit peu les perturber, ils ne vont pas être capables de se reconcentrer. Donc ce qui fait qu'ils vont beaucoup procrastiner, sachant que c'est un mot qui n'existait presque pas en 2011 quand j'ai commencé, hein. Procrastiner. C'était un mot issu des Anglais, tu vois, c'était un mot un peu anglophone. Mais les gens, d'ailleurs, quand tu tapes procrastiner sur Word, en français, il a tendance à te le souligner en rouge parce que pour lui, c'est un mot qui n'existe pas. Hein. Donc, ce n'est pas encore rentré tout à fait dans les us et coutumes. Et mon livre Concentration s'adresse donc aux gens qui ont des problèmes pour rester concentrés. Et je n'ai pas envie qu'ils aient du mal à réussir leurs examens, réussir leurs études, réussir leur carrière professionnelle. Donc, je leur ai livré les meilleures méthodes pour se concentrer, pour rester efficace et pour rester focus sur le long terme.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est hyper important. Moi j'avais fait une vidéo à un moment et je parlais de concentration et j'avais distingué la macro et la micro-concentration. Donc la macro-concentration, c'est-à-dire au niveau de ta vie, tes objectifs, est-ce que tu es un peu en mode objet brillant, tu vas dans tous les sens et puis tu prends ce qu'il y a, ou est-ce que justement tu arrives à te concentrer sur un objectif et puis le mener à bien sur la durée, mais aussi la micro-concentration que tu expliques là, c'est est-ce que s'il y a une notification, enfin déjà est-ce que tu laisses les notifications allumées, ça c'est un premier problème, mais est-ce que s'il y en a une, tu te laisses déconcentrer immédiatement ou pas? Et toi, justement, comment est-ce que tu as abordé la concentration? Comment est-ce que toi, tu as progressé au départ? Est-ce que c'était un problème dans ta vie où tu t'es dit, tiens, je remarque que je ne suis vraiment pas concentré, comment ça se fait? Ou est-ce que c'est directement parti des gens qui, tu disais, mais moi, je suis hyper concentré, pourtant les autres, bah, je ne comprends pas, ils en font moins, ils arrivent moins à retenir les choses. Comment c'était venu cette idée de vouloir mieux te concentrer, et puis après, bah, quel était ton process pour démarrer à réussir à mieux te concentrer et à avoir plus de résultats finalement?
Alors, j'ai remarqué que dans mon histoire, il y avait. Quand j'étais gamin, j'arrivais très facilement à me concentrer sur des choses qui n'étaient pas très utiles, genre les jeux vidéo. J'arrivais hyper bien à me concentrer. Ensuite, j'ai remarqué que j'arrivais à me concentrer, en fait, de manière générale, dès que c'était un peu fun, dès que j'éprouvais un certain plaisir. Donc, quand j'ai découvert les techniques de mémorisation, c'est quelque chose qui était un petit peu compliqué d'accès au début. Quand il a fallu les apprendre, mais c'était très plaisant. J'étais comme un explorateur en fait qui découvrait un milieu nouveau, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc je suis parti de moi en fait pour la concentration. Et puis j'ai commencé à livrer des techniques comme ça. Et très vite je me suis rendu compte qu'on fonctionne pas tous pareil au niveau de la concentration. Ce qui marchait pour moi ne marchait pas forcément pour les autres. Donc j'ai absorbé tout ce que je pouvais absorber sur le sujet, c'est-à-dire tout au niveau de la concentration, de l'efficacité, de la gestion du temps. J'ai également dans mes études été formé à la gestion du temps et à la priorisation, l'organisation. J'avais des cours d'organisation qui étaient CoEF6, hein, dans mon BTS bureautique à l'époque. Mais mine de rien, malgré tout, en fait, ces cours m'ont été très utiles dans la vie, dans ma carrière professionnelle plus tard, même si je les conspuais, ces cours. Parce qu'ils étaient vraiment pénibles. On apprenait des trucs comme les plannings, les trucs de roulement, la gestion, la compta, tout ça. C'est vraiment horrible. Mais en fait, c'est des choses qu'on n'apprend plus forcément, ou alors qu'on apprend sur le tas, mais plus de manière scolaire et de manière méthodologique. Et donc, j'avais des points forts vis-à-vis de ces matières-là, donc j'ai un peu exploité tout ça. J'ai commencé un peu à creuser comment je pourrais créer des techniques de la même façon que quelques années auparavant. Je l'avais fait pour la mémoire, bah, j'ai voulu créer des techniques de concentration. Alors, je ne les ai pas sorties de mon chapeau, je les ai créées directement avec les lecteurs. C'est-à-dire qu'au début de l'idée de ce livre, j'ai dit, bon ben voilà, j'ai envie d'écrire le meilleur bouquin qui existe sur la concentration. Qui veut venir avec moi pour faire le bêta-testeur? Pour lire ce que j'écris, pour tester les techniques que je vais donner, pour me donner les leurs peut-être aussi, pour quelques interviews d'experts, pour m'accompagner tout au long du projet, quoi. Donc, j'ai eu pas loin de 500 personnes qui se sont inscrites, quand même. Donc, j'ai eu 500 personnes qui ont pu tester les méthodes et ensemble, on les a, au fil des semaines, ça a pris plus d'un an quand même, on les a expérimentés, on les a optimisés. Et du coup, le résultat, c'est le livre Concentraction qui est basé exclusivement sur les méthodes. Mais tout seul, j'aurais pas pu le faire aussi bien, en fait.
Ouais.
J'en suis venu à là, en fait, toujours parce que j'ai la passion d'aider les gens. Pour moi, j'ai besoin d'avoir un but dans la vie, d'être utile. Moi, j'ai envie d'être utile. Être utile aux gens, donc ça a toujours été ça. Donc, la mémoire, c'était bien. J'en suis arrivé à un point où, c'est pas que je suis au plafond, mais je me suis rendu compte que les gens avaient d'autres problèmes que la mémoire également. Ils avaient beaucoup de problèmes de concentration. Ça va ensemble, donc les deux sujets sont très liés. Mais voilà, j'ai voulu m'orienter sur l'efficacité, l'organisation et la concentration de façon pleine depuis maintenant un peu plus d'un an.
Et justement, dans tout ce qui est efficacité, il y a la notion de choix qui revient beaucoup. Moi, quand j'accompagne des gens, effectivement, il y a la concentration qui est essentielle et qui souvent n'est pas là. Et puis, en deuxième, il y a la capacité à faire des choix parce que c'est souvent… les choix, on les prend à tout moment dans notre vie. Est-ce que je mange du chocolat? Est-ce que je n'en mange pas? Mais aussi à des moments un peu décisifs où ça va pouvoir nous permettre de donner finalement une direction au reste de notre vie. Et en cherchant un petit peu sur toi, j'ai vu que tu étais extrêmement prudent. Par exemple, tu donnais l'anecdote que toi, tu avais toujours un an de salaire qui était disponible sur un compte pour te permettre de faire face à des imprévus ou autres, que tu as quand même attendu de nombreuses années après avoir pu vivre de ton activité sur Internet pour finalement quitter ton job et te mettre à plein temps. Et du coup, je me suis dit, je voulais te demander comment est-ce que tu gères l'incertitude dans tes choix et quelle place ça a ensuite dans ta vie, tu vois, est-ce que si tu as de l'incertitude, tu es tellement, je sais pas, ça te met de la panique au quotidien, du coup, tu veux absolument pas en avoir et c'est pour ça que tu es si prudent, ou explique-moi un peu pourquoi et comment.
Alors, à un moment, j'étais comme tu décris, c'est-à-dire que je voulais absolument pas d'imprévu dans ma vie, je voulais pas d'incertitude, donc j'essayais de boucher tous les trous, si tu veux, en espérant pour qu'il n'y ait pas d'incertitude qui passe, tu vois, c'est un peu ça. Et en fait, non, l'incertitude, il faut… je suis même persuadé, en tout cas, c'est ce qui marche pour moi, que l'incertitude, il faut la calculer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai ce qui s'appelle un concept de marge de sécurité. C'est-à-dire que tout ce que je vais planifier, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais avoir au programme, je vais multiplier par 1,5 le temps que j'estime nécessaire. Donc, si tout se passe bien, ça veut dire que j'ai de l'avance par rapport à ce que j'ai estimé, du coup. Ouais. Mais évidemment, tout ne se passe jamais pas bien. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des trucs de dernière minute. Donc, ta marge de sécurité, elle te sert à ça. Elle te sert au palier aux imprévus. Mais je ne suis pas allergique aux imprévus. C'est juste que je les planifie. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre. Mais pour moi, les imprévus, c'est une donnée comme une autre qui est planifiée, qui est comptabilisée. En fait.
Ouais, mais ça a beaucoup de sens.
Elle n'est pas comptabilisée de façon précise. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire, là, j'aurai tant de temps d'imprévu au cours de ce projet. Ouais. Mais je peux te dire que j'ai calculé mon projet tient en compte des imprévus.
Mais ça, c'est... Alors, c'est important parce qu'il y a plein de gens qui, du coup, ne le prennent pas forcément en compte. Et du coup, elles disent, je ne peux pas donner de temps à mon projet parce qu'il va y avoir des imprévus. Du coup, je ne peux pas planifier. Du coup, je ne peux pas avoir de vrais objectifs, finalement.
Ça va avec ce que tu disais un petit peu. Je suis quelqu'un de très prudent. Donc, ça veut dire que souvent, j'ai tendance à estimer en premier le pire des scénarios. Enfin, pas le pire, mais un scénario conservateur, prudent, ou avec retour minime. Enfin, tu vois, je suis un peu comme ça. Comme ça, en faisant ça, et je conseille aux gens de le faire, en fait, parce qu'en faisant ça, j'ai que des bonnes surprises. comme je suis toujours à estimer que je vais pas avoir beaucoup, ça va pas bien marcher ou que il faut que je fasse gaffe, etc. Enfin, comme je suis hyper prudent, du coup, j'ai pas des attentes déraisonnables. Du coup, j'ai toujours de l'avance et j'ai toujours des bonnes surprises. Hein, parce que quand tu n'entends rien de particulier, mais que tu fais de ton mieux, bah, tu n'as que des bonnes surprises. Et au niveau du temps, de la gestion des projets, de la concentration, bah, moi, ça marche bien, bien, bien. Mm. Ça ne veut pas dire que ça marche pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je fais comme ça.
Ok, ouais, non, mais c'est intéressant. Bah, justement, c'est pour ça que les interviews, c'est cool. C'est que ça permet d'avoir plein de gens différents qui ont chacun leur méthode. Mm. Et qui sont très intéressantes. Mais ce dont tu parles, la planifier le pire, c'est, bah, Tim Ferriss en parle pas mal avec son idée de pré-mortem. C'est une idée stoïque, je sais pas si tu en as entendu parler, mais
ouais.
Modo, ça revient à planifier le pire, et voir au pire qu'est-ce qui va se passer, si tout rate, oui. Si les éléments se déchaînent contre moi.
Oui.
Et c'est vrai que c'est hyper intelligent de faire comme ça, parce que finalement, tu te rends compte que le pire est finalement pas si grave que ça.
Ouais, et puis ça t'aide à relativiser. Voilà, le pire n'est pas si grave que ça. Alors que j'ai beaucoup de gens, parmi ceux que j'accompagne, il y a pas mal de gens qui ne considèrent même pas leur vie. C'est l'épreuve de leur vie, l'échéance de leur vie. Et en fait, je leur demande un peu de me décrire qu'est-ce qui se passerait si jamais ils échouaient et que c'était vraiment l'horreur, quoi.
Ouais.
Et en fait, ils se rendent compte par eux-mêmes que c'est pas si dramatique que ça. Ça les empêchera pas de, ça les empêchera pas de faire de leur mieux, mais c'est pas si dramatique que ça. Et bon, ben voilà, c'est toute la prudence, mais c'est pas parce que tu planifies le pire que t'es quelqu'un de pessimiste, c'est juste que t'es quelqu'un de prudent, tout simplement.
Mmh, c'est clair, bah, je pense que de toute façon, les gens, en t'écoutant, ils voient que t'es pas un mec pessimiste, parce que les gens pessimistes n'ont pas le sourire comme ça. Ils ne disent pas que le fun, c'est le centre de leur vie.
Ah ouais, moi, c'est le fun. Hein. Je sais que ça peut paraître hyper contradictoire, parce que le gars, il est hyper prudent, mais en même temps, le fun, tout ça, comment il arrive à avancer ses projets, je comprends pas trop, tu sais. Mmh. Ça peut déstabiliser, mais pourtant, j'arrive très bien à allier les deux. C'est justement parce que je planifie l'imprévu que je suis plus cool, quoi.
Ouais, bah ouais, du coup tu sais que au pire il va se passer ton scénario catastrophe, mais bon, ça va.
Au pire, finalement, c'est pas grave, quoi.
Ouais.
J'aurais eu beaucoup de fun, et puis me dépasser, c'est du fun aussi. Donc, même si je dis je suis prudent et tout, je me mets quand même à fond, quoi, dedans, tu vois.
Ouais.
C'est pas faut pas toujours écouter quand je dis que je suis prudent. Hein. Enfin, j'essaye vraiment de faire de mon mieux, hein, avant tout. Hein.
Mmh, oui, c'est de la prudence, mais c'est pas, on s'engage pas à moitié, quoi. Une fois que c'est planifié, une fois que tu as mis le cadre, bah, tu vas à fond pour que ça marche, quoi. C'est pas,
exact. Ouais.
Tu mets pas juste la moitié des billes dans les projets.
À fond. Faut te lancer à fond, sinon ça n'a pas d'intérêt.
Ouais, puis sinon tu vas avoir des regrets, en fait. Tu dis, bon, je l'ai fait, mais ça a raté, mais vu que j'étais pas à fond, bah, peut-être que je pourrais recommencer pour voir si ça va vraiment marcher. Et puis après, c'est infini.
Ouais, exact. Puis bon, ah, je ferai mieux la prochaine fois. Ça, moi, j'ai... Ouais, mais j'y suis pas arrivé parce que tous les événements ont fait que c'était contre moi. Non, ça m'intéresse pas, quoi. Là, je me lance des défis. Des fois, ça marche. Enfin, très souvent, ça marche. Là, il y en a un que je suis en passe d'échouer.
Ouais,
ça arrive aussi. Hein. Mais bon, c'est pas. Déjà, c'est pas dramatique. Et ensuite. Là, c'est très difficile de réussir. Il ne faut pas trop se charger de défis non plus, quoi. Tu retires toujours des leçons, même quand tu échoues. Donc, c'est cool.
Justement, les défis, bah, comme tu disais, tu as fait ta première chaîne YouTube, donc Potion de vie, ça a démarré par des défis de mémoire. Et puis ensuite, tu as fait encore plein d'autres défis. Tu as fait des défis où tu lisais un livre par semaine
oui.
Pendant un an. Même, ça a duré pendant même bien plus d'un an. Ensuite, tu as créé une autre chaîne YouTube, c'est Hannibal Lecteur. Dans laquelle tu
oui.
poursuis ton défi, un livre par semaine, et que tu chroniques en plus. Donc, ce n'est pas simplement lire et puis point. Il y a en plus ce travail-là. Quelle place ça a dans ta vie, les défis? Est-ce que c'est vraiment le truc qui te stimule? Parce que je vois que t'en fais partout, même ce défi que tu dis que bah, tu es en passe de rater, c'est un défi où tu t'es dit je vais écrire un roman en 30 jours. Donc, c'est quand même un défi qui est imposant. Est-ce que tu en fais depuis que tu es petit? Quel impact ça a dans ta vie?
En fait, si c'est un truc sérieux, si c'est un truc qui m'intéresse vraiment, j'ai envie de me lancer un défi. Très vite, j'ai envie de me lancer un défi pour me dépasser, des fois pour épater la galerie, hein, je ne le cache pas. Mais c'est quelque chose qui est stimulant pour moi. Donc, j'ai besoin de me lancer des défis et je conseille souvent aux gens de se lancer des défis parce qu'ils arrivent à se dépasser et ils prennent un peu goût aux choses.
Ouais.
C'est comme ça qu'ils arrivent à se motiver pour certains. Que comme ça, Et en tout cas, c'est toujours positif de se lancer un défi, de se lancer dans un projet. C'est un peu une aventure humaine. Et, c'est quelque chose qui a toujours été stimulant. Ouais.
Et du coup, tu vas par difficulté croissante ou, parce que quand même, la plupart des gens, si tu leur dis « je vais écrire un roman en 30 jours », c'est la paralysie, tu vois.
C'est pas si dur d'écrire un roman en 30 jours. Enfin, c'est pas si dur. C'est, en fait, si tu rationalises le truc, ça fait 1667 mots par jour. 1667 mots par jour, ça fait à peu près 4 pages Word.
Ouais.
4 pages Word sur un roman, c'est-à-dire un sujet que toi, tu choisis, pas un truc imposé. C'est déjà plus facile qu'écrire un article sur un truc dont tu te fous éperdument. Là, tu écris une histoire. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que si tu es organisé, discipliné, rigoureux et que tu as envie de réussir un défi, c'est tout à fait à la portée. Hein, c'est tout à fait à ta portée. Donc voilà, en plus, je suis auteur, donc c'était pas non plus un défi. C'est pas non plus un défi qui est techniquement difficile. Par contre, quelqu'un qui a jamais écrit et qui a du mal à se discipliner, qui a du mal à se lancer des défis, ça va être en mode hard pour lui, un mode très difficile. J'y mets un certain niveau de difficulté quand même parce qu'il faut que ça reste un défi et non pas juste un projet comme ça, quoi.
Ouais.
Et, mais il faut pas non plus tomber dans le piège que ce soit trop difficile parce que sinon tu vas te décourager, tu vas jamais y arriver, etc. Donc,
ouais, faut un peu l'ajuster.
J'aime bien un défi que je peux quantifier. Ouais, j'aime bien un défi que je peux quantifier, donc où il y a une ligne d'arrivée, quoi. Apprendre une langue, c'est difficile comme défi parce que j'ai pas cette ligne d'arrivée. Donc j'aurais du mal à te dire je vais apprendre une langue en tant de semaines ou tant de mois parce que j'ai pas ce critère ou ces critères qui vont me dire là c'est bon, t'as réussi ton défi.
Ouais, c'est vrai que on dira.
On peut dire des trucs un peu vagues.
Ouais, on voit jamais quelqu'un qui dit ça y est, j'ai appris l'allemand. Parce que finalement, la ligne d'arrivée n'est pas très claire, quoi. Ça pourrait être pareil pendant une heure avec un mec sur un sujet précis, mais.
Ouais, mais ça, tu peux le faire assez rapidement. J'arrive pas à avoir des critères pour ce type de défi, par exemple. J'arrive pas à avoir des critères qui me satisfassent.
Ouais.
Donc, j'aime bien les trucs que je peux quantifier, tu vois. Un livre par semaine pendant 52 semaines, au moins, c'est clair et net. Hein.
Ouais, c'est, si tu l'as réussi ou pas, c'est noir ou blanc. Quoi.
Voilà. 50 000 mots en 30 jours, c'est facile également. Mm-hmm. Toutes les capitales du monde en 2h30, c'est facile. Tout le drapeau en tant de temps, c'est facile aussi. Donc, tout ça, j'aime bien qu'il y ait une échelle de temps et une échelle critère qui me permettent de dire si j'ai réussi ou pas. Et au maximum, j'encourage les gens à faire des défis qui sont très spécifiques. Sinon, ça va être vague et tout ce qui est vague, tu as tendance à le repousser.
C'est clair. C'est un peu l'intérêt de la méthode des petits pas, justement, où tu découpes tout dans des petites actions et du coup, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute, quoi.
Ouais, j'en parle dans le livre, j'en parle régulièrement d'ailleurs. Plus tu découpes quelque chose, un projet, même s'il est gigantesque, plus tu le découpes, plus tu arrives à avoir des trucs hyper faciles pour progresser. Et du coup, tu te lances plus facilement dedans. Mmh. Que ce soit un défi ou un projet professionnel ou perso, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'aime bien conseiller aux gens aussi de découper, mais même des fois où ils se disent « mais non, j'ai plus besoin de découper là quand même ». Parce qu'il y a un peu une question d'ego où les gens se disent « non mais c'est bon, je vois la ligne, je sais comment on y va ». Sauf qu'en fait, si tu n'écris pas, il y a peut-être des trous dans les étapes dont tu ne te rends pas compte parce que tu ne l'as pas écrit. Et puis en plus, une fois que tu l'as écrit, n'hésite pas à découper, mais limite de manière presque… Où toi, tu te dis « mais c'est ridicule de découper comme ça ». Mais moi, à des moments, justement, une méthode qui me permet de me concentrer, moi, à des moments où vraiment je suis déconcentré, mais il faut absolument que je fasse un truc. Parce que souvent, quand je suis déconcentré, si je n'ai pas besoin une urgence, je me dis « ok, je sais que je vais être concentré dans une heure ou demain et du coup, j'arrête ». J'ai pas un problème tellement énorme que du coup ça me fait repousser pendant des mois et des mois. C'est aussi ça qui permet ça. Mais des fois, voilà, je dois faire un truc, je note vraiment des étapes, mais des étapes ridicules. Par exemple, si c'est publier un article, tu sais, voilà, tu dois d'abord écrire le texte, mais imaginons que j'ai déjà le texte. Après, pour publier l'article, je peux redécouper ça en une dizaine d'étapes, voire même une vingtaine, avec des trucs genre cliquer sur le bouton machin, mettre un nom sur la photo. Mettre la photo dans l'article, mais vraiment, tu vas découper à un point qui est tellement élevé que tout est hyper simple.
Ouais, c'est ça. Je le recommande aussi très fréquemment, en fait, que la première étape, elle soit tellement facile que c'est un peu stupide, quoi, comme tu dis. Et du coup, comme c'est hyper facile, du coup, le passage à l'action, il est beaucoup plus naturel et facile. T'as tendance à ne pas le mettre à plus tard, parce que si c'est allumer ton ordinateur pour te mettre au boulot, voilà, allumer ton ordinateur, voilà, c'est quelque chose qui est tellement facile que ça, n'importe qui peut le faire et t'as pas de stress à faire ça.
C'est ça. Et justement, au niveau de l'organisation, tu as un point de vue qui va être vraiment intéressant parce que tu as vécu deux phases, on va dire, bien particulières. C'est la phase où tu étais salarié et en même temps, tu avais ton entreprise, la création de contenu, la lecture, etc. Et puis ensuite, tu es passé dans une phase où tu étais à plein temps. Moi-même, j'ai vécu ça il n'y a pas du tout longtemps et j'ai remarqué que c'était vraiment extrêmement différent, que les méthodes n'étaient pas du tout les mêmes parce que les contraintes non plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de ton organisation en premier, de quand tu étais salarié et en plus entrepreneur, parce que c'est une situation où quand on a un projet et qu'on est dans un emploi, c'est très courant.
Alors c'est marrant parce que quand j'étais salarié et en même temps entrepreneur, donc tu vois, j'étais bibliothécaire, hein, pendant 18 ans j'ai fait ça, et en même temps j'ai créé Potion de vie. Les chaînes YouTube, etc., le blog, la communauté Facebook et tout, j'ai tout créé, quoi. Et les gens me disaient, waouh, mais comment t'arrives à faire tout ça, quoi? Un boulot plus plus une activité d'entrepreneur, mais c'était pas possible. En fait, c'était pas si difficile que ça parce que ma vie était très cadrée, très réglée. Je savais que je me levais à telle heure, que j'allais bosser de telle heure à telle heure sur Potion de vie. Après, il fallait que je parte au boulot, je revenais, j'avais 1 heure, je mangeais en 1 demi-heure, l'autre demi-heure, je l'utilisais pour lire. Et puis, j'avais une vie qui était hyper, hyper, hyper cadrée, hyper réglée. Donc, finalement, c'était plus facile que cette année, où cette année, en fait, du coup, toutes tes journées t'appartiennent. Quand tu deviens entrepreneur à plein temps, toutes tes journées t'appartiennent. Donc, du coup, ce qui fait que tu as plein de temps devant toi, c'est magnifique. Mais ce n'est pas pour ça que tu n'as pas de difficultés, hein. Tu as tout un autre tas de difficultés qui est trouver ton rythme et être efficace tout le temps. Parce que tu as beaucoup de déchets en fait. Quand tu as toute la journée qui t'appartient pour faire ce que tu veux, ok, c'est cool, tu peux bosser sur les projets que tu veux, mais dans la réalité, tu te rends compte que tu as tendance à mettre beaucoup de choses, à faire des plannings trop chargés. Moi, j'ai commencé comme ça, j'ai fait une grosse erreur. Je me suis fait mon planning hyper chargé au quart d'heure près.
D'accord.
On n'est pas loin d'Elon Musk. Hein. J'ai tenu 2 semaines. Deux
C'est
semaines,
déjà pas mal parce que moi
c'est
j'aurais
déjà
tenu
bien, mais
2 jours.
c'est horrible parce qu'au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte que je courais après le temps, que je sous-estimais constamment tout le temps nécessaire pour faire les trucs. C'était l'horreur. Je serais arrivé en burn-out ou pas loin, quoi, si j'avais continué comme ça. Donc, j'ai complètement laissé tomber l'idée des plannings trop remplis. Je continue à faire des plannings et là, en fait, ma philosophie pour faire ce passage un petit peu d'entrepreneur à plein temps, c'est que chaque journée, j'ai une mission. J'ai une grosse mission à faire et tout ce que je peux mettre à côté, c'est des missions annexes. Donc, c'est bien, ça me rapporte du bonus si tu veux, hein. J'envisage beaucoup les trucs en tant que jeu. Donc ça, c'est des bonus, mais j'ai une mission par jour et j'en mets pas plus. Pareil pour les rendez-vous, les trucs comme ça, j'en mets 2 par jour, pas plus.
Mais c'est
Parce
vrai que
qu'après, tu perds énormément de temps, quoi.
moi, puis c'est vrai qu'au départ, moi j'ai vécu la même transition plus vers octobre. Et effectivement, au départ, j'ai passé 2 semaines à bosser, finalement, à ne pas respecter tous les conseils que toi tu donnes, que moi je donne tout le temps. C'est-à-dire que je bossais, je sais pas, 12 heures dans la journée, blam, blam, enfin, vraiment en mode entrepreneur cliché, tu vois, qui est tout le temps occupé, machin, mais qui est finalement pas si efficace que ça.
Ouais,
Et
c'est
après,
ça.
en rationalisant un peu les choses, et puis en se disant, en fait, le truc aussi qui est bizarre, c'est que quand tu passes à plein temps, et que du coup, tu travailles de chez toi, ou alors tu travailles vraiment pas loin, tu as réellement du temps physique en plus que quand tu étais salarié, même si tu ajoutes le temps de travail parce que tu n'as plus de temps de transport, tu as tellement de choses qui peuvent s'optimiser que du coup, réellement, tu as peut-être 4 heures de plus par jour que les autres gens parce qu'il y a certains temps que tu ne perds pas. Mais
Ouais, c'est ça.
tu peux pas aller passer les 4 à travailler en plus.
Non.
Et c'est ça la difficulté, de tout ça.
C'est hyper difficile. Enfin, c'est une période de transition qui est très difficile, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de tiers-lieux, de coworking, de coffee shop où tu peux te connecter et bosser, parce que les gens, ils n'arrivent pas à bosser de chez eux.
Ouais.
On a fait l'apologie du télétravail, mais tu prends quelqu'un, un salarié qui n'a pas l'habitude de bosser en autonomie chez lui, tu le mets en télétravail, il va bien avancer au début parce que ça va être tout nouveau, mais bosser de chez toi dans ton environnement où d'habitude tu regardes la télé, tu mets sur ton canapé, tu bookings, tu fais tout sauf bosser, quoi. Là, d'un coup, arriver dans cet environnement à plein temps, ça demande quand même une certaine force de concentration, une certaine discipline. Hein. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Et le fait que les tiers-lieux se multiplient, bah, c'est pour répondre à ce problème. C'est parce que quand tu es obligé de t'habiller pour sortir et pour aller dans un environnement où les gens ils font que travailler, du coup, toi-même, ça te stimule à être beaucoup plus efficace. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui se développe et parfois changer d'environnement, ça fait que tu peux être plus concentré.
Et toi, tu travailles de chez toi, justement ?
Je travaille la plupart du temps de chez moi, mais c'est pas vrai tout le temps. Des fois, j'aime bien, surtout quand j'ai besoin de finir un bouquin, j'aime bien louer un Airbnb, y aller et puis faire que ça. Quoi. Il y a même une fois, j'ai loué un Airbnb à quelqu'un qui me connaissait et je ne savais pas, quelqu'un qui m'avait déjà vu sur YouTube. Donc la fille m'a vu débarquer. Je vous connais et tout. Ouais, c'était un peu ça fait un peu bizarre.
Ouais.
Et du coup, je lui dis que j'avais besoin de l'appartement donc pour une journée. J'avais loué l'Airbnb dans la même ville. Hein.
Donc, ouais.
Techniquement, le soir, je suis rentré chez moi pour dormir. Je suis pas resté dans l'Airbnb pour passer la nuit.
Ne changez pas les draps, il n'y a pas besoin.
Ouais, c'est exactement ce que je lui dis. Je lui dis, de toute façon, je ne veux pas rester. Hein. J'ai besoin de l'appartement pour tourner plein de vidéos. J'ai besoin du bureau pour pouvoir m'installer, bosser, parce que ce n'est pas chez moi. Et en même temps, c'est au calme, dans un environnement qui me plaît. Mais je dors dans mon lit ce soir. Hein. Ça l'avait beaucoup perturbé. Mais moi, j'avais avancé de ouf hein, ce jour-là. Ça, c'est quelque chose que je refais également dans les hôtels. Là, par exemple, je vais prendre un hôtel à Paris après une conférence et plutôt que de visiter la ville ou d'aller voir des potes, bah, j'ai fait bosser toute la journée en hôtel. Quoi.
Okay.
Donc ça m'arrive de le faire. Mais ça, c'est quand j'ai vraiment besoin d'avancer d'un coup sur un gros projet et que ça me demande beaucoup de concentration. Sinon, en règle générale, j'aime bien m'allouer. Je travaille avec un planning et j'aime bien m'allouer des petites périodes de temps comme ça.
Ouais. Et justement, en dehors de... Bah, du changement d'environnement dont on a parlé pour se permettre de mieux te concentrer. Est-ce que tu as, bah, quand tu es chez toi, des méthodes qui te plaisent particulièrement et qui t'apportent des résultats, qui vraiment te permettent au quotidien de te dire « Ok, bah, je vais réussir à bosser. » Et le matin, enfin moi, je sais que maintenant, le matin, je me lève et je sais que je vais réussir à être concentré toute la journée pour faire mon boulot. C'est même plus une question pour moi, mais il y a plein de gens qui, enfin limite, ils se réveillent le matin avec l'angoisse de se dire « Est-ce que je vais réussir à me concentrer aujourd'hui ?»
Ah ouais, ben déjà, il faut savoir. Moi, je trouve que c'est important de savoir à quelle heure de la journée tu es le plus efficace. L'histoire de ton rythme, en fait. Quelle est ton pic de concentration de la journée ? Et là encore, on est tous différents. Hein. Ça dépend à l'heure à laquelle tu vas te coucher naturellement, l'heure à laquelle tu te lèves naturellement. Et tu comptes qu'à peu près, l'heure à laquelle tu te lèves naturellement, tu ajoutes 2 heures et ça correspond à ton premier pic de concentration. Donc, si tu es du style à te lever naturellement vers 7 heures, ton premier pic de concentration, il va être à 9 heures. Bah à 9h, tu ne vas pas caler tes rendez-vous chez le médecin. Quoi. Tu vas pas caler tes rendez-vous chez le dentiste ou faire les courses. Quoi. Tu vas utiliser ce temps-là pour être hyper efficace. Et tu as un autre pic de concentration dans la journée qui correspond à 2 ou 3 heures avant le dîner. Donc, ça correspond à 18h à peu près ou 17-18h en ce qui me concerne. Où là, je sais que j'ai un regain de concentration où là, du coup, je vais faire une autre tâche. Mais comme je suis quand même fatigué de ma journée, je vais faire une tâche un peu plus créative. Alors que le matin, je vais faire des tâches qui sont très analytiques, très... parce que mon cerveau analytique, il est encore en pleine forme le matin, il vient de se réveiller, il est tout neuf. Hein. Donc, il va être capable de critiquer les choses, d'analyser, d'aller dans le détail du raisonnement et tout. Alors que le soir, il est « bon, allez, moi, je vais me coucher. Hein. »
Ouais.
Et du coup, la partie créative, elle se libère parce que du coup, tu n'as plus ces barrières qui te disent ouais, « attends, ton idée, elle est stupide. » là. Ou alors… Ouais, mais non, attends, tu vas pas faire comme ça, ça va te prendre trop de temps. Tu te poses moins de questions en fait le soir.
Ouais.
Donc j'en profite pour mettre les tâches un peu plus créatives, je les fais plus le soir. Donc le matin, tout ce qui demande, ce qui bouffe du cerveau en fait, et le soir, tout ce qui est un peu plus création. C'est souvent que mes idées de vidéos YouTube, je les ai le soir et pas le matin en fait.
D'accord, ouais.
Par contre, je les tourne le matin.
Ouais, ok. Pour être justement en pleine forme quand tu fais le sport.
Ouais.
Et bah justement,
Parce
la
que je suis en forme,
concentration.
parce que je suis capable de rester très longtemps à tourner, à retourner, etc. Alors que le soir, bah déjà, tu as moins de lumière.
Ouais,
Mais
aussi de ce point de vue-là, ouais.
ça joue aussi, hein, donc voilà. Mais de toute façon, le soir, tu es plus fatigué de ta journée. Moi, j'ai déjà tourné des vidéos le soir et ça se voit sur ma tête. Hein. Donc, plus jamais ça, parce que quand on te dit trois vidéos de suite que tu as l'air crevé,
C'est vexant.
tu comprends qu'il y a un problème.
Et bah justement, c'est intéressant qu'on parle de créativité parce que c'était un des sujets que je voulais aborder avec toi. Parce que bon, tu as écrit beaucoup d'articles, tu as fait beaucoup de vidéos, tu as écrit des livres. Enfin voilà, il y a plein de choses où les gens se disent, mais moi, je sais qu'au départ, moi je me disais ça aussi, mais en fait, je pourrais pas faire ça parce que j'ai pas les idées, enfin tu vois, j'ai pas d'idées, je sais pas comment on fait. Et du coup, pour toi, comment est-ce que tu cultives ton process créatif? Comment tu fais, bah, soit au quotidien, soit tu as, je sais pas, des méthodes qui permettent de faire ça?
Moi, je suis à l'opposé, en fait. J'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées et je sais très bien que j'aurai pas le temps de les accomplir. Donc, il m'arrive de distribuer mes bonnes idées aux gens qui sont intéressés et qui savent pas vraiment par où commencer. Parce que moi, je sais très bien que si je m'y lançais à fond, j'arriverais à faire une idée exploitable. Mais le problème, c'est que ça voudrait dire mettre de côté pas mal d'autres choses qui me tiennent à cœur également. Et j'ai pas le temps matériel de tout faire. Alors pour en arriver à là, hein, ça demande, comment dire, quand j'ai commencé ma vie d'entrepreneur, parce que c'est là que ça a vraiment changé en fait, où là en fait, je devais trouver une idée exploitable d'activité. Donc ça voulait dire regarder autour de moi et savoir comment je pourrais être utile aux gens. En fait, c'est ça être entrepreneur, c'est savoir comment tu vas rendre service aux gens. Enfin, c'est ma définition en tout cas. Et à force de cultiver ça, à force de regarder autour de toi, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais être utile, comment tu pourrais résoudre le problème mieux que les autres ici, ou au moins de façon différente des autres ici, ça m'a donné l'habitude d'être un peu plus créatif en fait finalement. Et à force de faire ça, du coup, tu te mets à avoir des idées de partout, des idées de business, des idées de quel livre tu vas écrire, des idées de trucs qui marcheraient bien, des idées de sur tous les sujets. Des idées de titres, des idées de projets, des idées de vidéos, des idées sur tous les sujets en fait. C'est comme un muscle finalement la créativité. Plus tu t'entraînes à trouver des idées, meilleur tu deviens. Et au début, il faut pas chercher. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de vouloir chercher une idée, la bonne idée, tu vois. Trouver des idées hyper créatives et tout, c'est faux. C'est toutes les idées ou presque ont été créées maintenant. Et ce qui va faire la différence, c'est comment tu améliores quelque chose, comment tu améliores une idée ou quel est ton point de vue sur la chose. Et ça, du coup, c'est juste ça qu'il faut viser. On dit souvent, faut mieux la qualité que la quantité. En ce qui concerne la créativité, il vaut mieux la quantité que la qualité. Faut pas chercher absolument à avoir la bonne idée. Faut chercher à en avoir beaucoup. Et s'entraîner comme tirer à la salle de sport pour ton corps, bah là, tu y vas pour ta tête. C'est
Mais
ça.
y a un truc hyper intéressant de la créativité, c'est que bah, là tu en as parlé, il y a un facteur qui est finalement la quantité de choses que tu rentres dans ton cerveau, qui te permet d'en sortir d'autres. Et puis il y a aussi un peu bah, un questionnement qui n'est pas forcément toujours compris, c'est bah, la concentration vs la distraction. Parce que effectivement, bah, on dit souvent, voilà, par exemple, pour écrire un article, il faut être concentré, blablabla, machin. Et après, les gens leur disent aussi, pour être créatif, il faut pas toujours être concentré, parce que tu vas aller prendre une idée au parc. Enfin, tu vois, tu sors de chez toi, tu mets la clé dans la serrure, et là, d'un coup, bah, hop, ça te donne une idée. Enfin, à tout instant de la journée, finalement, tu as un truc qui peut débarquer. Donc, comment toi, tu fais la balance sur l'utilisation de la concentration et de la distraction pour ta créativité?
En fait, le cerveau, il fonctionne de deux manières. C'est Barbara qui Oakley qui en parle dans son bouquin
Ouais, puis
là.
elle a un cours
On
aussi
ne
sur
naît pas
Cours Sera.
brillant. Ouais, voilà. En fait, elle te dit quoi? Elle te dit que ton cerveau, il fonctionne de deux manières. Le mode concentré, quand tu es concentré sur quelque chose ou tu analyses des choses. Et le mode diffus, où là, tu vas être plus en mode, je fais un truc qui ne me demande pas beaucoup de cerveau et en même temps, ça permet à lui de penser à autre chose. Et bah, c'est pendant qu'il pense à autre chose, il travaille également sur ce que tu lui as fait faire plus tôt dans la journée. Donc, l'idée, c'est d'alterner les modes très concentrés et les modes où tu fais autre chose, quoi. qui ne demandent pas beaucoup de cerveau. Et alterner ça, ça va faire en sorte que tu vas laisser ton cerveau respirer, en fait. Si tu es toujours en mode concentré, par exemple, parce que tu vas apprendre un truc, tu restes 4 heures sur le même cours, je dis n'importe quoi, mais c'est pour l'exemple. Quand tu restes 4 heures sur la même chose, ton cerveau, il ne respire plus au bout d'un moment. Il est en apnée. Et en apnée, 4 heures, c'est très long quand même. Hein. Je pense que tu as essayé, mais moi, je n'y arrive pas. Hein.
Moi non plus.
Le cerveau non plus, il n'y arrive pas. Bon, bah ça alors, le cerveau non plus, il n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, il a besoin de pause, le cerveau. Mmh. Et c'est durant ces pauses que c'est pas parce qu'il fait une pause qu'il va complètement lâcher. En fait, il va être en train de traiter la question, le sujet en arrière-plan. Et c'est là, du coup, que te viennent les idées. C'est le fameux syndrome de l'idée qui t'est venue sous la douche.
Ouais.
Parce que voilà, tu fais complètement autre chose et du coup, ton cerveau, il pense à la veille ou il pense à ce qu'il a fait aujourd'hui. Et du coup, là, tu as un regard neuf. C'est comme si tu avais un regard neuf sur le même problème qui t'a saoulé pendant des heures. Sauf que là, tu regardes d'un angle différent et c'est là que tu trouves les bonnes idées. Et alterner le mode hyper concentré avec le mode diffus, c'est la clé pour la créativité déjà, et c'est de la clé pour rester concentré sur le long terme. C'est comme si tu laissais souffler un petit peu.
Ouais, donc là tu soulignes aussi l'importance des pauses quand on travaille.
Ouais, c'est ça, mais c'est le mode distraction, quoi. Faut faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu étais en train de faire et qui ne demandent pas beaucoup de cerveau. C'est pas tu vas faire 4 heures de français, tu fais une pause et tu vas faire 4 heures de maths, quoi. Tu fais 4 heures de français, tu fais une pause de 20 minutes où tu vas glander, où tu vas sortir t'aérer dehors, courir un petit peu. Et là, il y a le mode diffus qui s'active. Mais c'est pas rajouter du boulot, quoi.
Ouais, c'est vrai que moi, je parle beaucoup des pauses aussi parce que dans le domaine de l'efficacité, de la productivité, c'est un peu... Il y a un peu ce mythe-là, tu vois, de la personne qui arrive à bosser tout le temps, qui en fait toujours plus et tout. Mais bon, ça, c'est juste une personne qui est sur le point d'être en burn-out. Et du coup, il y a aussi une manière de faire les pauses. Enfin, quand on dit « fais une pause », c'est pas « va sur Facebook ». Enfin, il y a des manières de bien prendre les pauses, quoi, pour qu'elles soient efficaces et qu'elles te fassent accéder justement à ce mode diffus et puis à du repos de ton cerveau. Et toi, est-ce que tu as des pratiques préférées pour… quand toi, tu prends une pause dans ta journée?
Je sors. En fait, ce qui est important, c'est d'oxygéner le cerveau. Donc, activité physique ou sortir t'aérer, mais ne pas rester dans ton environnement. Genre, si tu veux, tu bosses sur ton ordi et la pause, tu prends ton téléphone et tu vas jouer sur ton téléphone. Ce n'est pas une bonne pause, ça. La pause, ça sous-entend... pour moi, ça sous-entend un changement d'environnement également.
Ouais.
Pour un petit peu réinitialiser un peu le cerveau, tu vois, le faire repartir, même si c'est pas longtemps, c'est pour faire repartir sur de bonnes bases quand tu rentres, que tu as un regard neuf. Faut pas rester dans le même bocal, quoi. Faut vraiment aller voir ailleurs ce qui se passe et t'aérer, oxygéner tout ça. Hein. Pour moi, c'est important ça de faire ça. Donc, voilà les pratiques que j'utilise.
Non, mais c'est vrai que pour toi, l'environnement, ça a l'air d'être hyper important parce que les gens pourront voir dans tes vidéos. La vue de la ville que tu as sur la terrasse et tout. Enfin, et puis là, on en parlait aussi des changements avec les Airbnb et tout. C'est vraiment. Enfin, beaucoup de gens parlent de l'environnement, mais toi, tu as l'air de vraiment le vivre encore, enfin, je sais pas, à un niveau au-dessus où tu te sers vraiment de l'environnement comme un outil qui te permet d'accéder à ce que tu. Enfin, qui contribue finalement à la réalisation de tes objectifs.
C'est vrai que j'en parle beaucoup. C'est vrai que l'environnement, perso, c'est un critère qui fait que je veux être plus efficace, plus concentré. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit changer d'environnement constamment, mais quand tu fais des pauses, il faut quand même bien être conscient que ton cerveau, c'est un fait, il a besoin d'oxygène pour bien fonctionner. Donc, l'oxygène, chez toi, c'est chaud, quoi. Donc, à moins que tu peux faire... Si, tu peux faire du yoga chez toi, je ne sais pas. Mais l'idée, ouais, c'est quand même d'oxygéner le cerveau et l'environnement, ça aide vraiment à oxygéner le cerveau, que tu le veux ou non. Donc, l'un dans l'autre, pourquoi pas mêler les deux?
Ouais, avoir un peu d'activité. Et c'est vrai que ça,
avoir un peu d'activité. Ouais.
Le sport, bon, on ne dira jamais assez. Enfin, je veux dire, ça a des impacts sur la santé, mais sur la concentration, c'est des impacts énormes.
En fait, j'ai lancé un projet YouTube là où j'accompagne des gens. Ouais. Et parmi les gens que j'accompagne, il y a quelques étudiants en médecine. Et eux, quand je leur parle de faire des pauses...
ils te regardent avec un regard noir. Je le connais, celui-là.
ouais, ils te regardent en me disant « Ouais, mais les pauses, je perds mon temps, quoi, tu vois. Ouais. » Et tu vois, faudrait que je bosse 8 heures par jour et j'y arrive pas, quoi. Et quand tu leur dis « Bah, fais une pause et va courir 20 minutes », ils sont pas très chauds, quoi. Et pourtant, moi, j'insiste. Hein, je leur dis, ta mission, c'est de courir 20 minutes pour la prochaine fois. Hein. Je m'en fous. Tu fais quand tu veux dans la journée, mais tu cours 20 minutes. Et du coup, les résultats, en fait, ils sont contents de le faire parce qu'ils se sentent mieux après. Et du coup, ils sont concentrés plus longtemps et ils apprennent mieux. Donc, l'importance des pauses, ouais, même quand tu... C'est un peu contre-intuitif parce que tu te dis que c'est du temps perdu. Comme la méditation, tu te dis que c'est du temps perdu. Mais en fait, tu te rends compte que ça t'apporte quelque chose si tu le fais. Hein. Donc, c'est important au moins de tester sérieusement.
Ouais, puis là, quand tu parles des étudiants de médecine, je pense qu'il y a plein d'autres cadres, ouais, dans lesquels on se dit qu'il ne faut pas prendre de pause et tout. Bah, c'est aussi une question d'environnement. C'est parce que tous les gens autour de toi travaillent 12 heures par jour en train d'essayer de retenir des trucs en se frappant la tête contre les murs, alors que toi, peut-être que tu peux avoir une méthode un peu plus efficace. Moi, j'en ai eu pas mal des étudiants de médecine qui sont venus suite à mes vidéos, par exemple sur Anki, tu sais, l'application pour la répétition espacée, ce genre de choses-là.
Ouais.
Il y a toujours des manières astucieuses de faire moins et d'avoir de meilleurs résultats. Alors après, la médecine, c'est un contexte un peu extrême, mais les principes de base dont les pauses font partie doivent rester, parce que sinon, tu perds ton temps, quoi.
Ouais, et puis en réalité, personne bosse 12 heures dans la même journée, c'est fou. Il y a toujours, le cerveau, il a tellement besoin de respirer qu'au bout d'un moment, il te fait décrocher. Donc, tu es occupé 12 heures, mais ça ne veut pas dire que tu es efficace 12 heures. Donc, moi, je dis réduire un petit peu le temps des sessions, mais faire qu'elles soient de meilleure qualité, pas interrompues, tu vois, faire beaucoup, ouais, de pauses. Du coup, ça t'aide au final, ça t'aide à avoir plus de temps de mémorisation de qualité, tu vois, plus de temps de concentration de qualité. Il n'y a personne qui bosse 12 heures, c'est faux. Non, mais 12 heures derrière un ordi, moi je deviens fou. Hein, donc,
Et toi, justement, est-ce que tu as calculé tes heures de travail ou pas? Est-ce que tu sais combien d'heures tu travailles par jour en étant à plein temps, comme aujourd'hui?
Environ 6.
Okay.
Ouais, 6, bien, hein. 6 heures où je peux dire que, où je suis fier de ce que je fais, où je peux dire là j'ai bossé, quoi. Pas de facilité, tu vois. Enregistrer les factures de compta, pour moi ça compte pas, tu vois, par exemple. C'est pas vraiment, ça me demande pas de concentration, je peux le faire en mode automatique, je peux le faire en regardant une série même à côté, tu veux, je peux être en mode totalement déconcentré et j'y arriverai. Non, mais par exemple, j'ai sorti une vidéo récemment qui m'a demandé énormément d'heures de boulot, et là, ouais, c'était 6 heures sur la vidéo, quoi. 6 heures de montage. Ouais. Là, ça, tu peux pas le faire en mode.
Oh.
Le montage, tu peux pas le faire affreux. En mode. C'est affreux, mais enfin, moi, j'ai appris à aimer le montage, en fait. Je suis nul à ça. Enfin, je m'estime pas super bon, en tout cas. Mais j'apprends à aimer petit à petit. J'apprends à être plus efficace dedans. Donc, c'est bon signe. Mais avant, je détestais ça. Mais vraiment, c'est le truc, je le déléguais même.
Ouais. Bah,
Il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein.
Ouais, c'est clair.
Bah, le montage.
Toutes mes premières vidéos étaient très montées parce que tu sais, je scriptais, donc je disais une phrase, après je coupais, je disais à l'autre et tout, donc là ça me prenait un temps fou, mais du coup j'ai appris à monter hyper vite, donc ça c'est bien, et maintenant je fais juste plus de montage, j'essaie d'être un peu plus comme en interview, tu vois, normal, et comme ça les gens ils voient qui je suis aussi, c'est un peu ça l'esprit de, ouais, de YouTube, d'internet, c'est d'avoir une connexion un peu plus authentique.
Pardon.
Je suis pas le seul à être enrhumé.
Non, je sais pas, il y a une poussière là qui. Hop. Non, je suis absolument pas.
Mais en tout cas, c'est important ce que tu as dit, parce que tu dis je travaille 6 heures et moi je me reconnais vachement là-dedans. Moi, c'est pareil. Si je travaille déjà 5 heures dans la journée, et pareil, quand je parle de travail, moi je mesure mon travail. Ça, j'ai lu dans un bouquin il n'y a pas hyper longtemps, c'est 30 minutes. Vraiment totalement ininterrompu sur une tâche qui est importante, ça c'est du travail. Si je travaille genre 20 minutes et qu'après je regarde mon téléphone parce que j'ai pas fait exprès, ça compte pas. Et du coup c'est pareil avec ça, c'est 5 heures, déjà 5 heures je suis content quand j'ai fait 5 heures dans la journée.
Oui, c'est déjà beaucoup, hein, 6 heures.
Mais 6 heures, c'est...
On se rend pas compte, mais c'est déjà beaucoup.
Ouais, non, mais après, je tenais à insister dessus parce que quand tu es étudiant, quand tu es salarié, tu travailles 8 heures par jour, des trucs comme ça. Mais en fait, ce qu'on voit pas, et moi je l'ai beaucoup constaté en travaillant, j'ai travaillé chez un notaire cet été, et je voyais le nombre de moments perdus parce qu'il y a un collègue qui vient, qui te pose une question, parce que tu vas boire, ouais, un café, parce que ce genre de trucs.
C'est clair.
Et du coup, tu es 8 heures au travail, mais tu travailles pas 8 heures. C'est ça la différence.
Ouais, c'est sûr. Non, mais ça, oui, t'es occupé 8 heures, mais t'es pas 8 heures en mode pleinement concentré. Donc,
Là, il y a une question qui m'intéresse particulièrement, que j'ai notée. Elle m'intéresse en grande partie pour moi, surtout pour moi, en fait.
D'accord.
C'est comment tu fais quand tu abordes un nouveau domaine. Par exemple, tu te dis, je sais pas, je veux m'améliorer dans un domaine particulier. Moi, par exemple, en ce moment, enfin, ça change régulièrement. En ce moment, c'est la PNL. Je me suis dit, tiens, pour mes coachings, pour les personnes que j'accompagne, apprendre ces outils-là, ça peut être intéressant. Du coup, j'arrive, j'y connais pas rien parce que j'ai fait d'autres choses, mais je connais rien spécifiquement dans ce domaine-là. Du coup, je ne sais pas quelles sont les ressources qu'il faut. En fait, quand tu débarques dans un domaine, tu ne sais pas ce qui est important. Tu pars d'une feuille blanche. Comment toi, tu procèdes dans ce genre de situation où finalement, il y a tout à créer, quoi?
Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps sur les échecs, parce que je
Ouais.
me suis pris de passion pour les échecs, n'est-ce pas? Et du coup, pareil, hein, comment on fait pour vraiment s'améliorer? C'est un domaine que, bah, pareil, j'avais joué quand j'étais gamin, mais je n'avais jamais creusé le truc.
Ouais.
J'ai tout de suite cherché à savoir quelles étaient les lectures références, quoi. J'ai remonté la source, j'ai corroboré les sources en fait. J'ai fait des recoupements. Je voulais absolument avoir les bouquins références, les grands noms, les différents types d'ouvrages. J'ai cherché à me documenter un maximum. Alors ça, c'est passé par les bouquins. Toujours chercher. Quand j'arrive dans un nouveau domaine, je cherche à avoir le bouquin référence.
Ouais, le
Genre si
bouquin
les
que tout le monde
gens.
recommande, quoi.
Voilà, genre tu débarques dans une communauté, tu te dis, bon ben voilà, si je devais acheter un bouquin, je commence par lequel? Ou peut-être même souvent, des gens ont déjà posé la question. Quel est pour vous le meilleur livre d'échecs? Puisqu'on parle des échecs. Quel est le meilleur livre d'échecs? Et là, tu vas avoir plein de gens qui vont donner leur avis. Et tu vas te rendre compte qu'il y en a qui reviennent très souvent.
C'est clair.
C'est par ceux-ci qu'il faut commencer. Ceux qui sont systématiquement cités par plein de gens différents, c'est par ceux-ci qu'il faut commencer. Il ne faut pas commencer par le bouquin qu'un mec va recommander parce qu'il est méga expert. Il faut commencer par ceux qui sont le plus souvent cités. Déjà ça. Parce que souvent, le bouquin irremplaçable cité par l'expert, c'est un truc qui est tellement profond que pour commencer, c'est oublie. Oublie, ça va te dégoûter du truc.
Ouais, c'est clair.
Mais le bouquin qui revient souvent, c'est un bon point de départ. Ensuite, tu vas te rendre compte que, y a souvent y a des communautés qui sont créées, quel que soit le domaine, l'activité. Donc pour la PNL, tu trouveras des communautés. Et regarde un peu quels sont les piliers de ces communautés, quels sont les messages, quelles sont les thématiques du moment. Comme si tu débarquais dans une nouvelle ville en plus, un peu. Hein.
Ouais.
Tu cherches à prendre tes marques, tu cherches à voir qui est en place, comment c'est structuré, etc. Tu débarques dans un nouveau domaine, ça veut dire que, au sens poétique du terme, tu débarques également dans un nouveau territoire. Donc c'est à toi de voir quels sont les points de repère et tout. Et après, je vais absorber énormément de choses.
Ouais, tu vois, par
Je vais prendre
exemple,
de passion, je vais m'abonner à des chaînes YouTube qui parlent d'échecs, je vais lire des bouquins d'échecs, je vais regarder des YouTubeurs qui présentent des trucs d'échecs, je vais faire énormément de choses et
ouais.
je vais absorber un maximum de contenu, je vais tester par moi-même, je vais me payer des cours d'échecs, tu vois, pour m'améliorer rapidement. Et ça passe aussi par là, par la formation, quand tu débarques dans un nouveau domaine et que tu veux le maîtriser vite. Et voilà comment je fais en général, je plonge à fond dedans. Dans ces périodes-là, il n'y a rien d'autre qui existe. Donc, je suis un peu monomaniaque, c'est-à-dire que je fais que ça, quoi. Si je me lance dans les échecs, bah, je ne vais pas l'après-midi me lancer dans le canevas, quoi. Tu vois,
Ouais.
je vais rester
Mmh.
que sur les échecs toute la journée. La nuit, je vais penser échec. La douche, je vais penser échec. Quand je vais créer mes vidéos, je vais voir s'il n'y a pas un lien avec les échecs. Tu vois, je vais faire que ça.
Ouais,
Pendant
mais
au
c'est
moins 6 mois à peu près. Et après 6 mois, ça se calme un petit peu. Et là, du coup, je vais avoir une bonne maîtrise du truc et je vais être capable de, pas d'être expert, mais d'avoir déjà un niveau beaucoup plus avancé.
Ouais, c'est clair
En
qu'en
seulement
six
6 mois.
mois, enfin, même déjà, je pense en 2, 3 mois, si tu consommes beaucoup, que tu vois beaucoup de choses, tu arrives à faire pas mal de liens. Moi, c'est marrant parce que ce que tu conseilles là, c'est exactement la méthode que j'ai utilisée. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'avoir une autre méthode? Parce que comme ton l'apprentissage, c'est ta spécialité, c'est intéressant. C'est une méthode qui est en partie qui est un petit peu décrite dans le bouquin de Tim Ferriss, The 4-Hour Chef. Je ne sais pas si tu le connais, ce livre.
Alors, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion de le lire.
En fait, c'est assez marrant. Je vais résumer rapidement. Toi, tu sais certainement un peu ce qui
Ouais.
l'entoure. Il y a une première partie qui est sur sa méthode, comment on apprend des trucs. Et la
Ouais.
deuxième partie, ça t'apprend à faire la cuisine. Mais la cuisine,
OK.
vraiment de la grande cuisine, si tu veux. C'est pas. Enfin, moi, par exemple,
Ça me plaît.
moi, je fais pas la cuisine comme ça, tu vois. C'est vraiment alors, comment maîtriser, comment couper les aliments, tu vois, avec
Moi, je fais pas
la
la
bonne
cuisine du tout.
manière. Bah, tu pourras apprendre avec Tim Ferriss à faire la cuisine. Mais.
En plus, je pense que c'est un super prof.
Ouais, bah, en fait, lui-même a appris la cuisine en faisant ce truc-là. C'est un peu un bouquin qui décrit une expérience. Moi, j'aime bien ce type de livre. C'est le mec part de zéro, vit une expérience, parce que grâce à tout son background, il est capable de progresser rapidement dans un truc. Et il te fait vivre le truc aussi en accéléré de ton côté et dit exactement par quoi il est passé, les doutes qu'il a eus et tout. Et du coup, tu peux vachement. Comment on dit t'identifier à la personne.
Bah, je le lirai, ça fait un bouquin de plus que je vais lire, mais pour moi, en fait, c'est même pas une méthode, hein. Pour moi, j'ai toujours fonctionné comme ça.
Ouais, mais c'est
Quand
vrai
j'ai
que moi,
voulu être bon dans un domaine.
j'avais pas eu de réflexe de. Par exemple, il y a un site qui est très connu, si les gens veulent trouver, pour trouver des communautés et tout ça. Bon, bien sûr, il y a Facebook où vous pouvez trouver des gens, mais il y a un site qui est excellent avec des questions, des milliards de questions, et toutes les questions ont des réponses qui sont hyper sérieuses. Et ça, c'est hyper drôle, c'est Quora. Tu dois certainement le
Cora, ouais,
connaître.
bien sûr.
Moi, je trouve ça hallucinant, en fait. Il y a des questions qui sont. T'as l'impression que le mec se fout de la gueule du monde avec sa question. Et derrière, t'as un expert du domaine qui va lui faire une réponse hyper complète et intéressante. C'est souvent en anglais, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de regarder, c'est génial. Bah, pour faire ta méthode, justement, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai
Cora,
mis.
c'est bien.
J'ai tapé en anglais quels sont les meilleurs bouquins pour la PNL. J'ai trouvé un sujet de Quora et j'ai trouvé je sais pas combien de réponses. Et ça m'a permis de commencer comme ça. C'est
Bah,
fascinant.
tu commences par le bouquin qui est le plus souvent cité et généralement tu ne te trompes pas, quoi.
Ouais, puis après, de toute façon, il y a des références à la fin du livre. L'auteur a peut-être écrit d'autres livres. Donc, après, c'est sans fin, quoi.
Ou après, tu vas tout simplement reconsulter le même sujet, la même communauté, les mêmes gens
Ouais.
et tu vois les autres livres qui ont été cités et du coup tu enchaînes par eux. Et là, après, tu t'attaques au bouquin d'expert. Mais toujours commencer par les bases en fait quand tu commences un nouveau truc. Les fondamentaux. Maîtrise les fondamentaux, après ça va tout seul.
Ouais, c'est clair. Et puis même y revenir souvent. C'est un peu un livre
Ouais.
que. Enfin, un reproche qu'on peut souvent faire, moi que je fais souvent au bouquin sur l'efficacité, c'est que c'est des livres qui parlent beaucoup d'outils, qui parlent beaucoup de petites techniques par-ci, par-là. On en avait discuté, voilà. Et qui parlent de Pomodoro, qui parlent de trucs, qui parlent de machin, mais qui oublient finalement que à la base, la raison pour laquelle ils sont efficaces, ce n'est pas ces techniques-là, c'est les grands principes qu'il y a au fond. Et
C'est ça.
c'est des trucs aussi, voilà, où il faut revenir souvent. Ça, c'est important.
Ouais, se concentrer sur les principes, ouais, et pas chercher absolument le gadget qui va faire que. Pas chercher la potion magique, mais chercher le grand principe, quoi.
C'est marrant pour un mec qui a un blog qui s'appelle Potion de vie, qui dit pas chercher la potion magique.
Eh oui! Ah non, faut pas chercher la potion magique, faut chercher la potion de vie, c'est pas pareil du
Ah.
tout!
Mais c'est vrai que c'est ça qui rend les. Enfin, moi, c'est ça qui m'attire dans un livre ou pas, c'est quand je vois est-ce qu'il y a vraiment des principes dedans ou pas. Et j'invite les gens à regarder ta vidéo sur ton livre Concentration, là, qui te présente le livre. Parce que dedans, tu parles de plein de choses, et notamment, ça se sent en fait qu'il y a des principes dans le bouquin. Je ne sais pas comment, si c'est parce que j'ai beaucoup plongé dans l'efficacité ou pas, mais tu sens directement que ce n'est pas un empilement de gadgets, comme tu disais. Ce n'est pas
Ouais.
ça. Donc,
Mais quand
comme
tu as
le
500
bouquin.
bêta-testeurs, tu as quand même pas mal de contenu, hein. Tu as quand même pas mal de matière et tu as testé pas mal de principes quand même. Donc,
Ouais, c'est ça. Ça permet
ouais.
de bien dégager les choses importantes. Ah oui, j'avais une question aussi sur la mémorisation. Donc, on parle beaucoup de mémoriser par analogie. Donc, voilà, tu fais dans ton palais de mémoire, tu mets une image qui te rappelle un truc, voilà.
Oui.
Et ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, moi, ça me ralentissait quand j'avais besoin de ces éléments pour réfléchir. Tu vois, pas uniquement d'apprendre le truc, mais par exemple, je sais pas, je retiens un modèle d'économie, ensuite je dois pouvoir extrapoler des trucs, machin. Et du coup, le fait d'avoir fait des analogies, alors j'avais l'impression que ça me ralentissait un peu dans ce process-là. Est-ce que,
Ouais.
dans le process vraiment de réflexion, tu vois, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu remarquer aussi et comment tu gères ça?
En fait, dans l'idéal, l'analogie, elle vient quand tu as bien compris la chose. Tu cherches pas à tout de suite trouver une analogie pour apprendre. C'est l'analogie, elle vient d'elle-même et elle te dit que tu as bien appris. Mmh. Donc c'est un petit peu différent en fait. C'est pas toi qui va chercher une analogie toute faite et essayer de l'appliquer. C'est toi qui va te rendre compte que ça fonctionne comme dans. Mais ça sous-entend que tu es passé beaucoup de temps à la réflexion justement. Donc apprendre, c'est pas quelque chose d'instantané. Mémoriser, c'est pas quelque chose d'instantané, c'est quelque chose qui prend du temps. Et quand les analogies viennent, elles viennent toutes seules. Ou alors quelqu'un la suggère et du coup tu te l'appropries. Mais il faut pas apprendre tout de suite par analogie. Il faut d'abord faire un travail de réflexion, de mémorisation, d'acquisition de l'information. Et après, voir si les analogies fonctionnent. Faut pas faire l'inverse.
Ouais, faut d'abord comprendre et puis ensuite apprendre en fait.
Ouais, il y a une grosse phase de compréhension qui est indispensable.
Mmh. Ouais, c'est intéressant ça.
Et qui doit venir avant les analogies.
Mmh. Ouais, c'est vrai que les analogies, j'avais pas mal utilisé ça sur des trucs qui étaient vraiment compliqués à retenir parce que moi ça me demandait un peu d'effort et je pouvais aussi retenir d'autres manières avec la répétition espacée par exemple qui me demandait moi moins d'effort. Et du coup, effectivement, là, c'est hyper intéressant ce que tu dis là sur vraiment comprendre avant de vouloir créer des trucs hyper élaborés ou même hyper simples, mais pour retenir spécifiquement.
Ouais, ça sous-entend que quand tu arrives à faire les analogies, ça sous-entend que tu comprends le principe de base et tu saurais l'expliquer à un gamin et qui n'y connaît rien, par exemple. Et tu te rends compte par toi-même que ça fonctionne, qu'il y a des analogies justement dans les fonctionnements entre ce que tu cherches à apprendre et quelque chose que tu connais déjà.
Ouais.
Mais il faut que ça soit une démarche personnelle pour que ce soit efficace. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui te dit « Mais si, ça fonctionne comme dans machin !» Mais non, ouais, ok, oui, tu vas dire, ah bah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, tout, oui, c'est super. Mais ça ne veut pas dire que ça, tu auras mémorisé le truc, et ça ne veut pas dire que tu sauras réfléchir. Ça voudra juste dire que, ah oui, ça fonctionne comme dans machin, mais du coup, le cheminement, c'est pas dit que tu l'es, quoi. Ouais. Quand c'est un processus simple, ok, quand c'est un truc, une analogie un petit peu plus tirée par les cheveux ou compliquée, ça ne fonctionnera pas.
Mmh. Merci, je pense que ça va pouvoir contribuer à plein de gens qui nous écoutent, et à moi surtout. Est-ce qu'il y a une personne que je devrais inviter pour une prochaine interview ici?
Une personne en particulier?
Ouais, une idée que tu as de te dire, tiens, ce serait intéressant de...
Tim Ferriss.
T'as beaucoup d'ambition là, dis donc.
Quoi, tu vas dire qu'il va être trop occupé?
Ouais, je sais, ouais. Non, mais j'invite les gens à aller voir Tim Ferriss, mais...
Sur l'efficacité et la concentration.
Ouais, ou même sur un thème. Ça peut être aussi des thèmes un peu plus connexes parce que finalement, voilà, la concentration, il y a plein d'autres domaines. Et même sur l'efficacité, il y a plein de dérivations des gens qui parlent d'état d'esprit, de choses comme ça. On n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais je sais que tu en parles aussi.
J'en ai deux en tête qui, pour les connaître personnellement, ils sont vraiment bons. Dans ce domaine-là, dans ces domaines-là en tout cas, où ils sont très organisés et ils auront beaucoup de choses à partager. Il y a Fabien Olicard, je ne sais pas si tu connais, c'est un youtubeur.
Ouais, bah, c'est lui qui a écrit le livre là, sur le temps.
Ouais. Votre temps est infini.
Ouais.
Et lui, c'est bon, il sait bien s'organiser, il a des journées de dingue. Après, son planning, il est peut-être un peu chargé en ce moment, je ne sais pas trop. Et il y a Alexandre Cormont, je ne sais pas si tu connais.
Ouais, c'est sur lui, il fait du coaching sur l'amour et même pour les entrepreneurs maintenant, je crois.
Ouais, c'est ça. Et lui, il est très, c'est un modèle d'efficacité et d'organisation. Hein. Donc, si tu peux l'interviewer, en plus, c'est super sympa, super accessible. Et lui, je pense que ce sera un bon invité aussi. Voilà, je pense à ces deux personnes.
Bah, merci pour ces inspirations.
Et sans doute à plein d'autres, mais là, c'est ceux qui me viennent en premier.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on refait l'interview demain. Ce sera pas les mêmes et c'est ça la magie du cerveau.
Yes.
Où est-ce que tu veux où sont les endroits déjà où tu veux envoyer les gens qui sont arrivés jusqu'à la fin, donc qui sont hyper motivés, tu vois, pour venir te voir, et quels sont tes endroits préférés du coup pour communiquer avec tout avec...
Là, je suis pour YouTube. Je suis à fond sur YouTube.
Ouais.
Pour moi, c'est le média d'avenir, donc je suis à fond sur YouTube. Ça veut pas dire, si tu me contactes sur Twitter, je réponds. Si tu me contactes sur Instagram, je réponds. Sur mon blog, je réponds. Par email, je réponds à tout. Mais c'est vrai que YouTube, j'y mets beaucoup d'efforts dedans. Donc, je vais y être un petit peu plus présent que le reste. Et c'est là où j'ai envie de guider les gens en priorité.
Ouais, puis t'as deux chaînes YouTube en plus, ça il faut le préciser. Hein. Ouais. J'en ai parlé tout à l'heure.
Potion de vie, Hannibal Lecteur, lecteur comme le lecteur de livres. Hein, où là, je fais des chroniques de livres où c'est des livres inspirants, des livres parfois que les abonnés ont écrits. Et je fais ça depuis un petit moment maintenant. Je donne également des conseils sur comment écrire des livres, enfin pour ceux que ça intéresse. Et voilà.
Qu'est-ce qui t'excite en fait dans les chroniques de livres ?
Moi, j'aime bien partager ce que je lis, parce que j'ai souvent des lectures. Je lis pas beaucoup de fiction en fait, donc j'ai beaucoup de lectures sur des trucs qui sont stimulants intellectuellement au niveau analyse, réflexion, développement personnel, cerveau, neurosciences, etc. Et j'aime bien partager. Et puis bon, tu sais, j'ai été bibliothécaire 18 ans, donc
il n'y a pas de hasard.
Encore heureux que je suis un peu excité par le monde des livres, quoi. Et puis il y a des gens qui prendront jamais la peine de lire les bouquins, donc moi j'en fais un petit résumé, quoi. Ça peut permettre de diffuser la connaissance un peu.
Mais c'est vrai que moi, quand j'utilise beaucoup ta chaîne, en fait, pour quand j'ai un livre qui me semble intéressant, je dis tiens, est-ce que Jean-Yves l'a lu ou pas, et que si tu as fait un résumé dessus, je vais le regarder, et si ça me paraît intéressant et que j'ai envie d'aller plus loin, ça a vraiment cette utilité là plus que le dos, tu vois, du livre, parce que la quatrième de couverture, fois sont intéressantes, des fois moins.
C'est mieux de voir s'il n'y a pas déjà une chronique sur le sujet, ouais, c'est sûr.
Ouais, ça aide bien à faire les choix. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent maintenant ?
Lancez-vous des défis et réalisez-les. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Lancez-vous un défi, n'importe quoi, et réalisez-le. Débrouillez-vous comme vous voulez, on s'en fout, mais réalisez-le. Mais lancez-vous un défi, réalisez-le. Restez pas dans votre coin à attendre que ça tombe, ça n'arrivera jamais.
Merci, c'est un très très bon mot de la fin qui est motivant, et c'est un appel à l'action. C'est ça qu'on veut.
Réalisez-vous un défi d'ici la semaine prochaine, m'en fous de savoir ce que c'est. Publiez-le, envoyez le résultat à Lucien et
mettez-le en commentaire de cette vidéo.
Mettez-le en commentaire de la vidéo, mais faites un défi, donnez un élan à votre vie, lancez-vous un défi, même si vous paraît trivial ou même si vous paraît inutile ou stupide ou qui n'intéresse que vous, lancez-vous un défi. Votre cerveau, il attend que ça. Voilà.
Votre cerveau n'attend que ça. Merci Jean-Yves. Et puis, je laisse les personnes se rediriger vers tes chaînes YouTube pour continuer l'interaction avec toi.
Avec plaisir, Lucien. Merci tout le monde. Merci, merci.
Au revoir.
Salut.